Bonjour à tous, aujourd'hui on entame une nouvelle série sur l'économie d'un monde meilleur. Si contrairement à 2008, l'économie n'est pas directement à l'origine de la crise actuelle, de plus en plus de voix s'élèvent pour incriminer notre modèle fondé sur la croissance et la quête du profit. La course à la rentabilité a en effet fragilisé notre environnement et nos systèmes de santé, et la pandémie nous fournit peut-être l'occasion d'imaginer une autre économie, plus respectueuse du bien-être humain et des écosystèmes. Demain, on se demandera comment mettre la finance au service de la transition écologique. Jeudi, c'est l'individu que l'on cherchera à changer pour préparer l'avenir. Mais d'abord, peut-on réconcilier la croissance économique et la santé? C'est la question qui va nous intéresser dans l'heure qui vient. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour évoquer les combats communs de la santé et de l'environnement, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à distance Éloi Laurent, économiste, chercheur à l'OFCE, professeur à Sciences Po, Pont Paris Tech et à l'université de Stanford, et auteur de cet ouvrage « Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance » paru aux éditions des Liens qui Libèrent au mois de novembre. En fin d'émission, vous retrouverez le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Éloi Laurent.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, expliquez-nous peut-être ce qui vous a amené à vous pencher sur les liens entre économie, bien-être et nature.
Alors écoutez, j'ai commencé mes études d'économie au niveau universitaire en tant que macroéconomiste. Donc je me suis intéressé à, disons, au monde conçu par John Maynard Keynes dans les années 1930, c'est-à-dire donc la question des ménages, des entreprises, du revenu, du travail, du capital, de la croissance, de la politique budgétaire, de la politique monétaire. Et puis, au milieu des années 2000, à un moment très précis dont je me souviens parfaitement, qui était un moment où nous étions avec ma femme à l'université d'Harvard, elle m'a emmené voir le documentaire d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Et je terminais ma thèse donc en macroéconomie, et ça m'a vraiment frappé comme une invalidation à peu près complète des cadres de la macroéconomie. Et j'ai compris à ce moment-là, je l'avais pas compris avant et c'est entièrement dû à mes limites intellectuelles, mais à ce moment-là j'ai compris que en fait la macroéconomie, ça n'avait de sens qu'encastré dans la biosphère, et que en fait ce qu'il fallait essayer de comprendre, c'était l'économie écologique, c'est-à-dire le fait que les systèmes économiques étaient encastrés dans un système encore plus vaste qu'est la biosphère, et que les véritables échanges qui comptent, ce ne sont pas les échanges de revenus, les flux de revenus, mais c'est bien plus les flux d'énergie, les flux de matière, la question des pollutions, la question, voilà. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à me former véritablement à ces questions d'économie de l'environnement, économie écologique, et voilà. Et depuis, j'essaye d'explorer cette interface entre, disons, le système économique, la question sociale et la réalité de la biosphère. Donc c'était il y a environ 15 ans.
Et c'est comme ça que vous vous êtes intéressé effectivement au lien entre justice sociale et développement durable. Quels sont les auteurs qui ont inspiré votre réflexion à la croisée du social et de l'écologie? Dans quelle tradition intellectuelle est-ce que vous vous inscrivez, Éloi Laurent?
Alors moi, je m'inscris vraiment dans deux traditions. La première tradition, c'est l'économie politique de l'environnement, c'est-à-dire le courant de pensée qui vise à comprendre les questions écologiques comme des questions sociales. Et pour moi, la référence mondiale en la matière, c'est James Boyce, l'économiste américain de l'université du Massachusetts à Amherst, qui m'a vraiment éclairé sur ces questions, que j'ai rencontré un peu plus tard à nouveau à Harvard quand j'y suis revenu cette fois en 2009, et qui m'a vraiment éclairé sur ce lien fondamental entre la question sociale et la question écologique. Et puis,
également Elinor Ostrom, voilà.
Voilà, Elinor Ostrom, avec qui j'ai travaillé aussi un peu plus tard, et qui est vraiment la chercheuse qui a montré en fait qu'il n'y avait pas de fatalité qualité dans l'exploitation des ressources naturelles par les communautés humaines et qui a vraiment remis en cause cette idée de la tragédie des communs, cette idée qui est aujourd'hui qui apparaît comme une fatalité, nous sommes en train de détruire notre habitat. En fait, elle conteste ça et elle arrive à montrer avec des centaines d'exemples à travers le monde comment les humains arrivent à s'organiser en fondant en fait des institutions, des politiques dont les principes essentiels sont la réciprocité et la justice et qui permettent d'exploiter de façon soutenable les ressources naturelles. Donc il n'y a pas en fait de tragédie des communs, il y a simplement des bonnes et des mauvaises institutions sociales, et donc il faut parvenir à passer des mauvaises institutions d'aujourd'hui qui conduisent à détruire la biosphère aux bonnes institutions de demain qui permettront de la préserver. Et donc voilà, donc c'est à la fois un programme de recherche absolument extraordinaire et en même temps c'est une source d'espoir permanent parce qu'on sait que ça peut tout à fait fonctionner.
Vous avez publié votre livre Éloi Laurent, Et si la santé guidait le monde en pleine pandémie mondiale. Qu'est-ce que la campagne actuelle de vaccination qui a commencé en France il y a une semaine et les difficultés qu'elle traverse illustrent selon vous ?
Ben, pour la France, ça illustre la nouvelle étape de ce qui est une douloureuse démonstration d'incompétence qui dure depuis près d'un an maintenant, puisque donc le gouvernement français a à peu près tout raté. Et les premiers signes avant-coureurs de la première vague, la question des masques, la question des tests, la question de l'isolement, aujourd'hui la question du vaccin, donc il y a une certaine cohérence dans cette incompétence. Au niveau mondial, ça illustre le fait qu'il n'y a pas d'autre politique économique qu'une bonne politique sanitaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une politique sanitaire vraiment efficace, on ne pourra pas évidemment parler d'activité économique. Donc ça illustre le fait que tous les discours qui consistent à opposer santé et économie et à dire qu'on peut choisir entre croissance et santé sont simplement absurdes.
Et alors justement, il semble que nos systèmes de santé se soient dégradés. Selon vous, c'est à cause de la course à la rentabilité. Écoutez ce témoignage d'Agnès Hartmann. Elle est diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire « va falloir que vous produisiez du séjour ». Alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. » Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisés. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire « Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ?» Parce que dans ma tête, je me disais « Ça fait 15 jours qu'il est là. Il occupe la chambre. Je ne vais pas pouvoir faire du séjour. » Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis, oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité.
Voilà, un témoignage recueilli le 15 janvier 2020. Qu'est-ce qu'il vous inspire, Éloi Laurent ? Est-ce qu'on a voulu finalement gérer la santé avec des outils économiques et ce faisant, on a finalement monétarisé le vivant ?
Alors, ça, c'est deux questions différentes. Là, ce témoignage-là que je reprends dans mon livre comme dans un chapitre qui est consacré à la question de l'économie de la santé et qui s'intitule de l'économie de la santé à la santé de l'économie, qui montre bien cette dérive du système de santé et du système de soins vers un système d'optimisation, d'efficacité qui est gouverné par des indicateurs économiques. Ce témoignage-là dit simplement que les soignants ne sont pas épuisés par l'année 2020. Ils sont épuisés par 15 années d'austérité et de gouvernement par des indicateurs économiques qui sont totalement fous et qui sont en fait irrationnels. C'est ça qui est absolument terrible, c'est qu'on réalise que ce système-là, qui est censé être un système de rationalisation, est en fait un système totalement irrationnel. Et non seulement c'est un système irrationnel en temps normal, pour simplement ce que c'est censé produire, c'est-à-dire du soin, et comme elle le dit, pas du séjour, hein, mais du soin, mais en plus c'est complètement irrationnel au XXIe siècle.
Parce que que c'est irrationnel, Éloi Laurent, oui.
Parce que nous savons que nous allons devoir affronter ces crises écologiques, si vous voulez. Le problème, c'est que on a maintenant 50 ans de passif, hein, si on veut, de systèmes économiques qui n'ont pas du tout pris soin des écosystèmes et de la biosphère, et que nous savons que ce qui a commencé là, malheureusement, c'est une étape qui peut être assez longue, peut-être 10 ou 20 ans de crise écologique à répétition. L'année 2020, c'est pas seulement la pandémie de Covid-19, c'est aussi en France l'année la plus chaude, donc c'est aussi le changement climatique, c'est aussi la dégradation des écosystèmes. Et donc ces crises-là vont avoir un effet extrêmement important sur les sociétés humaines, et évidemment la meilleure protection face à ça, c'est d'un côté l'état social, la protection sociale, et de l'autre le système de santé. Et donc c'est pour ça que j'essaie d'expliquer dans le livre que le fait de se concentrer sur la santé, c'est pas seulement une stratégie qui consiste à trouver une nouvelle boussole, c'est aussi une stratégie qui permet de construire un bouclier qui soit vraiment robuste, parce que plus on sera en bonne santé, et mieux on parviendra à affronter ces crises écologiques.
Mais alors vous pointez du doigt cette gestion de la santé avec des outils économiques, mais alors est-ce qu'évaluer l'efficacité d'une politique de santé publique, ce n'est pas nécessaire pour éviter les gabegies, Éloi Laurent ?
Bah écoutez, la gabegie qu'on a sous les yeux là, c'est vraiment la gabegie liée à une espèce de, une fois de plus, de rationalisation totalement irrationnelle. Ce qui provoque des gabegies, ce qui provoque de l'inefficacité, ce qui provoque un système qui est incroyablement dispendieux et coûteux, c'est les impératifs économiques. Regardez le système américain. Le système américain a deux particularités tout à fait stupéfiantes. La première, c'est que c'est le plus cher du monde. Ça coûte à peu près 18-19% de la richesse nationale américaine, ce système de santé. C'est à peu près deux fois plus que les pays de l'OCDE, donc des pays comparables en moyenne. Et c'est en même temps un des plus inefficaces au monde et un des plus injustes. Et ça, au nom de précisément cette logique de la rentabilité, c'est-à-dire que les hôpitaux sont transformés en machines de rentabilité financière. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'au bout du bout, c'est totalement inefficace. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, et c'est la leçon qu'on a eue aussi sous les yeux en France, vous avez eu des hôpitaux publics qui ont été libérés pendant la première vague du carcan d'absurdité de la rationalisation budgétaire, et qui se sont révélés non seulement efficaces sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique.
Mmh. Et cela parce que la médecine préventive est moins coûteuse, notamment, Éloi Laurent, et aussi le fait que les soignants ont pu fonctionner de manière collégiale, ça c'était aussi une des leçons de la crise actuelle.
Mais parce qu'ils sont enfermés, ils sont étouffés par ce système de la rationalisation et de l'austérité. C'est ce qu'ils disent. Moi, je suis pas médecin et je ne suis pas responsable d'un hôpital public, mais je les entends et je les écoute depuis des années et des années. Si vous voulez, quand la crise a frappé, je vous rappelle que on était dans une revendication des systèmes des services d'urgence et des hôpitaux français qui duraient déjà depuis un an et demi et qu'on n'écoutait pas. Donc cette revendication-là, à la fois d'autonomie et de simplement pouvoir faire son métier, c'est-à-dire de ne pas, une fois de plus, faire du séjour, mais faire du soin, c'est une revendication qui vient de loin. Et ça fait effectivement 15 ans. Le problème, c'est que quand on désarme ce qui est une protection essentielle face à des chocs comme les chocs qui vont se multiplier, évidemment, on en paye le prix.
Pour bien comprendre le prix est là aujourd'hui. Pour bien comprendre ce prix, justement, Éloi Laurent, vous dites que ce fonctionnement remonte à une quinzaine d'années. Cela remonte en particulier à la création des agences régionales de santé en 1996. C'est à ce moment-là que l'État a commencé à reprendre le contrôle sur l'hôpital ?
Ce n'est pas seulement le problème que l'État a repris le contrôle. Une fois de plus, on peut gouverner des services publics et on peut gouverner des hôpitaux avec toutes sortes d'indicateurs. La question, c'est comment on a repris le contrôle. Et donc, ça remonte à avant. Ça remonte au New Public Management. Ça remonte aux indicateurs de gestion et d'optimisation dans les services publics qui ont conduit à désorganiser ces services et à les rendre de plus en plus inefficaces. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce que j'appelais la douloureuse démonstration d'incompétence. Elle vient de loin. C'est-à-dire que c'est en effet 15 ans de cette politique soi-disant rationnelle que nous avons sous les yeux. Et je crois personne ne comprend, personne aujourd'hui n'est capable d'expliquer ni de comprendre à quel niveau d'incompétence on en est arrivé pour avoir 300 vaccinations quand l'Italie en a 45 000 et que l'Allemagne en a 200 000, si vous voulez. Donc c'est vraiment un point, je crois qu'il faut vraiment souligner et il faut regarder ce bilan en face. Moi, je suis frappé par le fait que on ne fait pas suffisamment l'analyse de ce qui s'est passé au cours de l'année 2020. Il y a 65 000 morts, une première vague qui a été extrêmement meurtrière, qui fait de la France un des pays les plus touchés au monde. La deuxième vague a été encore plus meurtrière que la première. La France est un des 10 pays les plus touchés au monde. La France est le pays européen qui est le plus infecté. Nous avons quasiment 3 millions d'infections et nous savons que ce virus provoque des séquelles à long terme, même si on n'en meurt pas.
Vous parlez de vulnérabilité sanitaire, Éloi Laurent. C'est comme cela que vous évaluez. Vous dites qu'il faut regarder le rapport entre le nombre d'infections et le nombre de décès, et cela permet véritablement de connaître, de savoir si la réponse a été suffisante face à la crise.
Bah, en tout cas, ce que je propose dans le livre, on peut regarder toutes sortes d'indicateurs, je crois que les gens sont assommés par les indicateurs du soir au matin, ils n'en peuvent plus, mais sur la première vague, il y a un indicateur moi qui m'a véritablement frappé, qui est en effet le rapport entre le nombre d'infections et le nombre de décès, et ça fait de la France un des 3 pays les plus touchés pour ce qui est de la première vague. Et ce que ça nous dit, c'est que les Françaises et les Français sont dans un état de santé qui est beaucoup plus dégradé que ce qu'on croyait, qu'il y a énormément en réalité de comorbidités, puisque nous savons que derrière cette maladie infectieuse, il y a la question de l'épidémie des maladies chroniques. Hein. C'est ce que le responsable de la revue de Lancet a appelé une syndémie, c'est-à-dire que c'est pas seulement une crise sanitaire qui est la maladie infectieuse, mais une deuxième crise sanitaire qui est la question des maladies chroniques. On découvre ça en France et donc on découvre tout un océan de vulnérabilité. Et on se dit très franchement que s'il faut affronter une crise écologique sévère par an, ce qui est vraisemblablement ce qui nous attend entre canicule, inondations, pandémie, etc., avec un système qui est aussi peu considéré par les pouvoirs publics, effectivement, on va vers la catastrophe.
Alors justement, est-ce que de premières leçons ont été tirées de la crise, Éloi Laurent ? Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 mars 2020.
Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre état-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle.
Éloi Laurent, il aura fallu la crise du Covid pour qu'Emmanuel Macron reconnaisse les insuffisances de sa réforme de l'hôpital lancée 2 ans plus tôt.
Mais non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'est-à-dire, non seulement c'est diamétralement opposé à ce que tout ce gouvernement a fait depuis qu'il est entré en fonction, non seulement évidemment le gouvernement porte une part de responsabilité considérable dans l'affaiblissement du système de santé, de soins et dans cette longue série d'erreurs, mais ça n'a même pas suffi, puisque ce que disent les soignants, c'est que alors même que nous parlons en cet instant, des lits continuent à être fermés. C'est-à-dire que cette logique gestionnaire soi-disant rationnelle, qui est en réalité complètement folle et irrationnelle, continue alors même que cette pandémie est en train de se dérouler.
On sort quand même de la tarification à l'activité, notamment Éloi Laurent, ça c'est tout de même un progrès.
Non mais il y a des progrès qui sont beaucoup plus importants qu'il faut faire, si vous voulez. La question de la santé environnementale, la question de la lutte contre l'isolement social, la question de la crise majeure qui est en train de frapper la France, qui est une crise de santé mentale. Ce qu'on est en train d'avoir sous les yeux, c'est une crise majeure du lien social qui conduit à une crise de la santé mentale. Donc les défis sont beaucoup plus considérables que ça. Donc il y a tout un continent à repenser, qui est la question de la santé au XXIe siècle, qui est, je ne dis pas que c'est simple et que ça va se faire tout de suite, mais je crois que c'est le bon moment de commencer vraiment à y réfléchir. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ce livre, ce que j'appelle la pleine santé, c'est-à-dire la santé dans toutes ses dimensions, physiologiques, psychologiques, dans toutes ses ramifications, à commencer par la question écologique, parce que je pense que c'est vraiment le cœur de ce qui pourra faire que le monde sera vivable ou pas. Et ce que nous avons sous les yeux, c'est ce qu'il en coûte de démanteler ces protections collectives quand on affronte des chocs aussi violents que les chocs du XXIe siècle.
La santé a-t-elle été privilégiée au détriment de l'économie ? Cela fait encore débat, mais ce que vous nous dites, Éloi Laurent, c'est que le choix qui a été fait, ça a été plutôt de sacrifier la vie sociale plutôt que de reléguer au second plan l'économie, contre le discours que tient aujourd'hui l'exécutif.
Alors, ce qui s'est passé est un peu compliqué, je vais prendre juste un instant pour l'expliquer parce qu'on ne peut pas aller trop vite et c'est source de beaucoup de confusion. On va se centrer sur le cas français et essayer de regarder de façon objective les politiques qui ont été mises en œuvre. Ça commence grosso modo en janvier-février. À ce moment-là, il y a des indicateurs que moi je n'avais pas, que vous non plus, que personne ne connaissait à part les responsables de santé publique, mais des indicateurs clairs du fait que ce qui était considéré comme une épidémie locale à l'automne 2019 en Chine était en train de devenir une pandémie mondiale. À ce moment-là, vous avez un certain nombre de possibilités de faire des politiques de traçage des gens qui arrivent dans les aéroports, de suivi, voire de confinement localisé, etc., de politiques graduelles qui évitent d'avoir ensuite des politiques complètement drastiques. On ne le fait pas. Le mois de mars arrive et là, les indicateurs sont relativement clair, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des gens qui commencent à mourir en Europe et on commence à avoir l'Italie qui nous dit très clairement ce qui nous attend 2-3 semaines plus tard. C'est 2-3 semaines absolument critiques, c'est pas du tout négligeable, 2-3 semaines. On fait à peu près toujours rien. Tout d'un coup, brutalement, au milieu du mois de mars, on décide de mettre un arrêt brutal à la vie sociale. Et ce qu'on détruit à ce moment-là, c'est beaucoup plus que la question de la croissance économique ou l'activité économique, c'est les liens sociaux. Et pendant 2 mois, on va avoir un arrêt complet de la vie sociale, des liens sociaux, etc. Donc ce que ça veut dire dans cette première phase, c'est que on a donné la priorité à une activité économique qu'on n'a pas voulu arrêter, en laissant ce...
Qu'on a quand même largement arrêté en partie.
Non, non. Dans la première phase, on ne l'a pas arrêté. Janvier, février, mars, on ne l'a pas arrêté. Et ensuite, on a été obligé de faire une politique complètement drastique d'arrêt de la vie sociale parce qu'on avait laissé les indicateurs sanitaires se dégrader et que simplement les services hospitaliers étaient complètement débordés. Donc vous voyez que l'apparence qui est « on a donné la priorité à la santé » est exactement fausse. On a donné la priorité à l'économie et parce qu'on l'a fait, on a été obligé de mettre à l'arrêt la vie sociale. Et à ce moment-là, les conséquences sanitaires sont extrêmement graves parce que les conséquences sanitaires deviennent des conséquences de santé mentale. Donc on a doublement sacrifié la santé. On l'a sacrifié au début en négligeant les indicateurs sanitaires de maladies infectieuses et ensuite on l'a sacrifié ensuite parce que la source première de santé mentale pour les humains sont les liens sociaux. Et ensuite, à 6 mois d'écart, on a répété exactement la même erreur, c'est-à-dire que les indicateurs de la deuxième vague commencent à être visibles fin août. Il ne se passe rigoureusement rien en termes de politique sanitaire entre fin juin et fin octobre en France. Et à ce moment-là, on recommence à confiner et on a le double choc qui consiste à, d'un côté, avoir des morts qu'on aurait pu éviter parce qu'on a pris les politiques trop tard et ensuite tous les effets sur la santé mentale. Donc c'est ça la réalité, si vous voulez. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en même temps, la séquence est celle-là. Et donc, il faut arrêter d'expliquer qu'en France, on a donné la priorité à la santé.
C'est... Et alors, justement, concernant le nombre de morts, Éloi Laurent, si le Covid a fait plus de 65 000 morts en France, c'est aussi parce que la population française était en plus mauvaise santé qu'on ne le croyait?
Non, la raison pour laquelle on a eu autant de morts, la première raison, c'est parce qu'on a eu beaucoup plus d'infections qu'ailleurs. C'est-à-dire que la France est le pays d'Europe qui est le plus infecté. Il y a 2,8 millions d'infections. C'est absolument considérable et c'est évidemment là qu'on a le réservoir, si je puis dire, de gens qui vont ensuite développer des formes graves et qui vont malheureusement en mourir. Donc la première raison, c'est qu'on a trop laissé se développer les infections, une fois de plus parce qu'on n'a pas pris les choses de façon graduelle et qu'on a laissé les choses se dégrader. C'est particulièrement vrai sur la deuxième vague et c'est d'autant moins excusable qu'on avait l'expérience de la première. Et donc, d'abord, il y a cette question d'infection. Ensuite, il y a la question de savoir si on meurt plus en France pour une infection donnée, est-ce qu'on a un ratio qui est plus élevé ailleurs pour une infection qui va entraîner ou non un décès. Et la réalité, en tout cas pour la première vague, c'est que c'est le cas. Donc là, on a un deuxième problème qui est... Premier problème, ça a été la négligence sanitaire. Le deuxième problème, c'est la vulnérabilité sanitaire, c'est-à-dire une population qui est en mauvaise santé. Et puis après, il y a la question du système de soins et de tout ce qu'on peut faire pour éviter que quelqu'un qui est dans un état critique ne décède. Et là, c'est la question des moyens.
Vous dites une population en mauvaise santé. Éloi Laurent, pardon de vous couper, mais l'espérance de vie en bonne santé continue d'augmenter en France.
Oui, d'abord, en fait, elle stagne assez largement. Enfin, on pourrait en discuter. J'ai vu, comme vous, les chiffres de l'adresse. Et la réalité, c'est que compte tenu de, enfin, ça dépend du mode de calcul, etc. Mais en fait, en réalité, elle est à peu près stagnante depuis une dizaine d'années. Mais le problème, c'est les maladies chroniques. Et le problème, c'est notamment la question de l'influence des conditions environnementales dans les maladies chroniques. Par exemple, la pollution de l'air. Et donc, ce qu'on commence à avoir, c'est on commence à avoir vraiment cette idée de la syndémie est vraiment intéressante. Mais c'est aussi ce que disait André Cicolella sur la question de l'épidémie des maladies chroniques. C'est-à-dire que derrière la question des maladies infectieuses, vous avez l'état de santé, les comorbidités, les maladies chroniques, et on est en train de voir le début de la dégradation de l'espérance de vie. Et effectivement, si on prend les 10 dernières années ou les 20 dernières années, on a une espérance de vie et une espérance de vie en bonne santé qui continue de progresser, et tant mieux. Moi, ce que j'essaye ce sur quoi j'essaye d'alerter, et c'est pour ça que cet indicateur me paraît très important, c'est que je crains malheureusement qu'il ne commence faiblir et qu'il ne commence à être affaibli par ces chocs successifs.
Et puis, quand on parle d'espérance de vie, il y a évidemment des disparités importantes. Écoutez à ce sujet le sociologue Pierre-André Juvin, invité des Matins de France Culture le 12 juin 2019. Il se demande quelle vision de l'hôpital pour quelle politique publique.
Il y a une partie des élites réformatrices qui considèrent que l'hôpital doit aujourd'hui devenir un établissement non plus où l'on accueille, mais où l'on soigne uniquement et où l'on soigne en matière de soins très techniques. Et un autre type d'hôpital, et c'est celui que défendent en général les soignants et les soignantes, et même les citoyens et les citoyennes à travers des mouvements comme les Gilets jaunes, c'est un hôpital qui, certes, va assurer ses missions de soins très techniques, mais qui va aussi jouer un rôle de soins plus larges, de médico-social, qui va être aussi un lieu où on prend le temps d'écouter les patients, et non pas où l'on les surveille, où on prend le temps aussi de prendre en compte les différences entre personnes. Un cadre de 30 ans en bonne santé qui va se faire opérer n'est pas du tout dans la même situation qu'une personne âgée, isolée, qui a plusieurs pathologies. Et donc cette différence de définition d'hôpital, un hôpital technique ou un hôpital au sens sanitaire et social, elle va avoir deux implications politiques différentes. Et aujourd'hui, on sait, elle tend très clairement vers le premier type d'hôpital, avec la privatisation d'énormément de services au sein de l'hôpital, avec des enjeux par exemple liés à l'hébergement, c'est-à-dire que de plus en plus naissent des hôtels hospitaliers, c'est-à-dire des hôtels à côté de l'hôpital pour ne pas avoir à garder les patients dans l'hôpital la nuit. Mais le problème, c'est la façon dont les patients vont devoir payer ces nuits d'hôtel, à la différence d'une nuit d'hospitalisation. Donc voilà, il y a tout un système qui est en train de se mettre en place, dont on ne parle pas forcément beaucoup et qui, encore une fois, relève d'un débat démocratique.
Il faut aujourd'hui un hôpital public qui prenne davantage en compte la question des inégalités et de la justice sociale, Éloi Laurent.
Écoutez, moi, je suis pas un spécialiste de l'hôpital public. Je raisonnerais en termes de santé. Je dirais qu'il faut une santé qui soit vraiment holistique. Voilà. L'organisation de l'hôpital public, je ne la connais pas suffisamment pour dire des choses intéressantes sur la question. Par contre, la manière dont on peut penser la santé, il me semble que oui, il faut une approche holistique. C'est-à-dire une approche qui à la fois donne toute sa place à la question sociale, aux inégalités sociales de santé, aux inégalités environnementales, à la question des liens sociaux, à la question de la santé psychologique, à la question de l'isolement social. C'est un enjeu absolument fondamental, et notamment parce qu'il y a les crises écologiques, la question de l'isolement social. Donc, de façon générale, appelons ça la coopération sociale, et de l'autre côté, toute la question de l'interdépendance écologique. Au fond, c'est ça, cette année 2020. C'est une année qui se situe dans une tension entre l'interdépendance écologique, le fait que nous sommes des êtres de nature et que notre santé dépend de la santé des écosystèmes, et la coopération sociale, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire de mieux en tant qu'espèce, et le fait que nous sommes jamais aussi intelligents que quand nous sommes plusieurs à essayer de l'être. Et donc, cette idée que, en effet, la santé, c'est quelque chose d'à la fois social et d'écologique, ça me paraît fondamental. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on est vraiment en retard sur, en particulier sur la question de la santé environnementale. Alors même qu'on sait à quel point c'est fondamental.
Il semble toutefois qu'il y ait une prise de conscience du coût extrêmement élevé de la dégradation de la santé humaine et des écosystèmes. Alors, faut-il privilégier la santé plutôt que la croissance? Est-ce que c'est un bon calcul économique? On en parle dans un instant. Hospital bound, so you know there will be treatment. Hey, all right, it's too late to put up a fight. So you know you should be sleeping. Wide awake, there's some pills that you shouldn't take. Honest to God, it's ill always and unknown. Hospital des Counting Crows sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Éloi Laurent qui propose de remettre la santé et l'environnement au cœur de nos priorités. Alors cela implique de changer nos objectifs. Pour vous, Éloi Laurent, il ne faut plus viser le plein emploi mais la pleine santé. Qu'est-ce que cela implique?
En fait, ça implique de revenir un petit peu sur ce qui était les objectifs de l'état macroéconomique que je décrivais à la Keynes, hein. C'est-à-dire que donc vous avez en 1944 le deuxième rapport Beveridge qui parle du plein emploi dans une société libre et qui forme un couple en fait entre croissance économique, même si c'est pas explicite, et plein emploi, et qui va être le couple social-économique, hein, si on veut, qui va être développé et visé pendant les 30 années qui vont suivre, les années d'après-guerre, et ça va être le plein emploi, ça va être la social-démocratie, ça va être ce monde dans lequel la protection sociale et la croissance économique semblent se renforcer mutuellement. Il y a un problème qui est que on omet, ou en tout cas on ne prend pas en considération, la question des écosystèmes. Et donc il y a un troisième terme qui est la question écologique, qui est parfaitement déjà présente et déjà depuis un siècle, hein, dans un certain nombre de préoccupations. On voit un certain nombre de choses qui sont en train de changer dans la biosphère et on le prend pas en compte et au contraire, ça va continuer, ça va contribuer à dégrader massivement les écosystèmes. On se retrouve 60 ans après ou 70 ans après avec une réalité qui est que parce qu'on n'a pas pris soin de la biosphère et des écosystèmes, le social est très largement dégradé et c'est ce qui évidemment va empêcher finalement l'économique. Donc on se retrouve dans un système où les priorités sont absolument plus dans le bon ordre et qui devient totalement contre-productif. On essaye de développer à toute force la croissance économique et le plein emploi, y compris au prix de la santé et de la santé des écosystèmes, ce qui finit par rendre tout le système insoutenable. Donc simplement l'idée c'est de dire, au fond essayons de remettre les choses dans l'ordre. L'ordre de logique, c'est que la première chose fondamentale sur la planète, c'est la biosphère, c'est la vie. Ensuite, ça permet la santé humaine, à la fois physiologique et psychologique. Ça permet la coopération sociale. Et finalement, ça permet l'activité économique. Et donc, il faut absolument avoir des politiques publiques qui soient en phase avec cet ordre de priorité.
C'est
ça l'idée de la pleine santé. Mais ça ne veut pas dire que l'emploi est une question qui devient totalement annexe, secondaire ou dérisoire. Ça veut simplement dire que des sociétés, une fois de plus, comme la société américaine, dans lesquelles le plein emploi est acquis au prix de la santé, ou des sociétés comme la société chinoise, où le plein emploi est acquis au prix de la santé des écosystèmes, sont des sociétés absurdes. Il faut juste attendre 10 ans pour s'en rendre compte, mais on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'on a des sociétés dans lesquelles vous avez d'accord 3% de chômage, mais vous avez une espérance de vie qui recule. Vous avez des sociétés dans lesquelles d'accord vous avez des centaines de millions d'emplois, mais vous avez dans le même temps des crises climatiques à répétition.
Alors sur ces questions, que disent les économistes, Éloi Laurent? Vous nous dites qu'ils sont encore à la traîne, peut-être ont-ils perdu du temps en plaçant trop d'espoir dans le progrès et l'innovation? Je vous propose d'écouter à ce sujet l'économiste américain William Nordhaus lors de la remise du prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. C'était le 8 décembre 2018.
The 2018 award in economic science recognizes the significance of technological change.
Le prix 2018 pour les sciences économiques reconnaît l'importance des innovations technologiques dans le changement climatique. Ce sont deux domaines qui sont étroitement liés, car ils s'intéressent tous deux aux externalités ou aux retombées néfastes de la croissance économique. Ils s'intéressent tous deux à ce qu'on appelle les défaillances du marché. Autrement dit, ils s'intéressent à l'incapacité qu'ont les marchés dérégulés à s'assurer que la croissance économique réponde efficacement aux besoins humains, tout en nous protégeant et en protégeant notre environnement.
Que vous inspire ce discours, Éloi Laurent, et cette foi peut-être trop forte de certains économistes comme Nordhaus en le progrès et l'innovation?
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Nordhaus, là, propose une interprétation du prix qui a été remis en 2018, qui est une interprétation intelligente parce que c'est quelqu'un d'assez fin intellectuellement, qui, à mon avis, est totalement erroné. Ce qu'il dit, c'est que la raison pour laquelle on a remis le prix en 2018 à lui-même et à l'économiste de NYU, Paul Romer, qui travaille sur la croissance endogène, c'est parce que tous les deux essayent de comprendre les défaillances du marché. Je crois, au contraire, que la raison pour laquelle on leur a remis le prix conjointement, donc Nordhaus fait de l'économie du climat et Romer fait de la croissance endogène, c'est parce qu'on a voulu instiller dans l'idée dans l'esprit des gens que la croissance économique était la bonne solution au changement climatique. Ce qui est, à mon avis, une erreur majeure. Et j'en veux pour preuve les travaux de Nordhaus, puisque Nordhaus a bâti sa réputation académique depuis 30 ans sur la minimisation des coûts économiques du changement climatique. S'il y a une chose que fait Nordhaus, c'est de construire des modèles qui, depuis 30 ans, expliquent que finalement, quand on compare le coût du changement climatique à la croissance économique future, ce coût est finalement minime. Autrement dit, qu'il ne faut pas particulièrement accélérer ou intensifier nos efforts aujourd'hui pour réduire nos émissions de CO2 parce que la création de richesses à l'avenir va en prendre soin. Donc ça, c'est une absurdité, c'est une folie et c'est la façon dont l'économie érigée en pseudo-science défait à la façon d'une toile de Pénélope, défait le travail patient que font les vraies sciences comme la physique, la chimie et la biologie pour essayer de convaincre les dirigeants du monde de la gravité des crises écologiques.
Mais donc il y aurait eu un divorce entre les économistes et les questions écologiques, puisque si on regarde parmi les premiers économistes, Éloi Laurent, les premiers économistes, les physiocrates par exemple au XVIIIe siècle, prennent en compte les écosystèmes dans leurs réflexions.
Oui, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'effectivement le paradoxe, c'est que les physiocrates qui donc se trouve à l'origine d'un certain nombre de courants convergents qui vont former l'économie politique à la fin du XVIIIe siècle, dont la richesse des nations d'Adam Smith va être un petit peu la Bible, les physiocrates qui préparent cet avènement de l'économie politique sont des gens qui pensent que les ressources naturelles sont tout simplement au premier plan de l'activité économique. Adam Smith lui-même est influencé par Newton et conçoit l'économie comme une espèce de physique du monde social. Et le paradoxe, c'est que deux siècles plus tard, on a des économistes qui ont à peu près oublié la physique et qui ont construit des mondes artificiels dans lesquels, avec des analyses coûts-bénéfices monétarisées, on arrive à résoudre les problèmes. Bon, la réalité, c'est qu'on les résout pas, on les aggrave, qu'on a perdu un temps précieux avec ces arguments qui ont joué comme des anesthésiens des économistes, en expliquant qu'une fois de plus, comparé au PIB, à la croissance, finalement, le coût des crises écologiques n'était pas si important que ça. Et ça, évidemment, c'est quelque chose dont il faut sortir de toute urgence parce que ça nous mène tout simplement à la catastrophe, en plus en nous mettant un bandeau devant les yeux.
Vous montrez dans votre livre cette imbrication entre les enjeux sociaux, sanitaires et écologiques. Et une fois posé ce constat, quelles solutions proposez-vous, Éloi Laurent ? Selon vous, il faudrait inventer l'équivalent de la protection sociale à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire une institution qui protège collectivement des risques à la fois sanitaires et écologiques ?
Oui, en fait, il y a trois idées dans le livre. Bon, il y en a un peu plus que ça, mais il y en a trois principales. Il y en a trois principales. La première idée, c'est l'idée de la pleine santé, c'est-à-dire considérer que la pleine santé doit devenir un horizon social qui doit se substituer à la croissance économique, hein, une fois de plus, donc la santé dans toutes ses dimensions et toutes ses ramifications. La deuxième idée, c'est la boucle sociale écologique, le lien entre coopération sociale et interdépendance écologique, avec deux nœuds essentiels, le nœud santé des écosystèmes, santé humaine, et le nœud inégalité, transition écologique. Et la troisième idée, c'est l'état social écologique, c'est-à-dire une institution qui pourrait donner vie, donner corps à ces concepts et à ces représentations, et qui serait en effet le prolongement de l'état social que nous avons construit à la fin du 19e siècle, qui est celui-là même qui a fait tenir l'économie française debout en 2020 et qui continue encore de la faire tenir debout en 2021. Donc c'est pas du tout une institution ancienne et vieillie, c'est simplement aujourd'hui la colonne vertébrale de l'économie française. Et simplement, l'enjeu maintenant, c'est de comprendre que les crises écologiques étant des risques sociaux, il nous faut des protections sociales, c'est-à-dire la mutualisation du risque écologique, qui soit aussi efficace pour réduire les inégalités que ce qu'on a réussi à faire sur la question de la vieillesse, de la pauvreté, etc. Étant entendu que la vieillesse est directement reliée à la question des crises écologiques, par exemple via la question des canicules et de l'isolement des personnes âgées qui sont le public le plus vulnérable aujourd'hui face aux canicules, que la question de la maladie est directement reliée à la question de la santé des écosystèmes, biodiversité confère la pandémie de Covid-19, que la question du chômage est directement reliée à la manière dont les crises écologiques peuvent mettre le système économique à l'arrêt. Donc voilà, donc relier toutes ces questions-là, en effet, et en faire de véritables questions sociales écologiques, et donc inventer des politiques sociales écologiques qui permettent de répondre et aux questions sociales et aux défis écologiques.
Alors, y a-t-il des pays plus avancés que nous sur ces sujets ? Je vous propose de partir du côté de la Nouvelle-Zélande, où la première ministre, Jacinda Ardern, n'a jamais dévié de sa priorité, la santé.
Il n'y avait pas de guide de survie pour le Covid-19. Il n'y avait pas de plan prédéfini qui expliquerait comment un pays doit réagir au genre de pandémie mondiale qui arrive une fois par siècle. Mais nous avons réagi fermement et nous avons réagi rapidement. Nous avons utilisé le chômage partiel pour soutenir 1,7 million de salariés pendant et après le confinement. Nous sommes organisés pour lancer notre économie sans danger. Nous ne sommes jamais écartés de l'idée que la meilleure réponse économique était une puissante réponse sanitaire. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Mais la preuve que nos efforts ont porté leurs fruits est que notre économie s'est rétablie bien avant les autres. Et maintenant que nous en sommes arrivés là, nous devons continuer à mettre en œuvre notre plan 5 phases pour rebâtir et relancer.
Jacinda Ardern, première ministre néo-zélandaise, lors d'un discours prononcé au mois d'août 2020. Éloi Laurent, pourquoi la Nouvelle-Zélande est-elle un exemple intéressant ?
Alors c'est un exemple passionnant. C'est pas n'importe quel discours. Hein. C'est le discours qui va lancer sa campagne de réélection. Donc c'est le discours sur lequel elle propose de prolonger son mandat à la tête du pays. Donc c'est pas n'importe quel discours, c'est un discours programmatique. Bon, d'abord, elle dit quelque chose d'essentiel qui est... Donc Jacinda Ardern, c'est quelqu'un qui vient d'un horizon politique relativement conventionnel, qui est le Parti travailliste en Nouvelle-Zélande, qui va faire campagne pour son premier mandat sur l'idée selon laquelle les 10 années de croissance économique qui ont précédé l'élection à laquelle elle se présente ont été une illusion. Et que, en réalité, cette croissance économique n'a pas bénéficié à une majorité de la population. Donc, dès son premier mandat, elle fait campagne sur l'idée que la croissance et le PIB sont une illusion. Ensuite, quand elle arrive au pouvoir, elle fait voter le premier budget de bien-être de l'histoire des pays développés en 2020 et donc en 2019 et elle arrive avec ce budget de bien-être à faire rentrer les indicateurs de bien-être et notamment les indicateurs de santé dans les finances publiques. Et ensuite, elle va utiliser la boussole de la santé pour affronter la pandémie de Covid-19 avec exactement la réponse inverse à celle de la France, c'est-à-dire donner toujours la priorité à la santé et de ce fait pouvoir avoir des redémarrages économiques qui sont plus rapides. Hein, on est toujours dans cette idée du faux dilemme santé-économie et en réalité dans le fait que on n'a pas à choisir. C'est en fait l'un et l'autre.
Et de fait, la pandémie a été très rapidement maîtrisée du côté de la Nouvelle-Zélande.
Et quelques jours après ce discours qui lance sa campagne de réélection, il y a 3 cas qui se déclarent à Auckland. Elle reconfine le pays immédiatement, mais pour une durée courte. Et aujourd'hui, le confinement en Nouvelle-Zélande est 3 fois inférieur à ce qu'il est en France. Parce qu'elle a eu à chaque fois cette réaction d'anticipation qui évite d'avoir à gérer la crise par la panique. Mais le point fondamental qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas seulement la Nouvelle-Zélande qui invalide cette question du dilemme entre santé et croissance, ce soi-disant dilemme et ce soi-disant choix qu'il faudrait faire entre santé et croissance. Tous les pays du monde, quand vous tracez aujourd'hui, que vous faites un graphique entre d'un côté les pertes en vie humaine et de l'autre les pertes en croissance économique, si c'est bel et bien votre indicateur, moi c'est pas le mien, mais si c'est l'indicateur dans lequel vous croyez qui est la question de la croissance économique, ce que vous avez, c'est que vous avez une droite qui est relativement, avec une pente relativement forte, qui vous montre que plus vous avez de pertes de vie humaine et plus vous avez aussi de pertes de croissance économique, et à l'inverse, moins vous avez de pertes de vie humaine et moins vous avez de pertes de croissance économique. Et pour exactement cette raison-là, qui est que quand vous avez donné la priorité à la santé, en réalité, vous avez réussi à éviter les politiques les plus drastiques en termes de confinement. Et encore, ce graphique ne tient pas compte de la question de la santé mentale. C'est uniquement sur les pertes de vie humaine. Si en plus vous rajoutez la question des coûts en termes de santé mentale induits par les politiques de confinement, qui sont des politiques de panique face à des réactions qui n'ont pas été, des indicateurs qui n'ont pas été correctement observés et anticipés, alors là vous avez encore un graphique qui est encore plus spectaculaire. Donc la Nouvelle-Zélande est intéressante non seulement pour ce que Jacinda Ardern a réussi à faire, c'est-à-dire démontrer la viabilité des indicateurs de bien-être au XXIe siècle et démontrer toute leur utilité sociale, démontrer concrètement que quand on sort de la croissance
c'est pour le bien-être de sa population, mais en plus de ça, elle est emblématique d'une réalité beaucoup plus vaste encore, qui est que, effectivement, les pays qui ont donné la priorité à la santé sont aussi ceux qui ont réussi à éviter les pertes économiques les plus lourdes.
Alors, on arrive au terme de cette discussion, Éloi Laurent. L'année 2020 devait être cruciale pour la lutte contre le dérèglement climatique, 5 ans après les accords de Paris. Est-ce que 2021 pourrait marquer une accélération en vue de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en Écosse en novembre prochain?
Ah ben il le faut. Là, on est au pied du mur, si vous voulez. L'année 2020 est une année catastrophique du point de vue climatique. Donc, il faut absolument. La question qu'on pourrait se poser, c'est à quelles conditions? Est-ce que ce rendez-vous absolument crucial sera une réussite? Et j'en reviens à un des deux nœuds de la boucle sociale écologique, qui est le nœud entre les inégalités et la soutenabilité ou la transition écologique. Plus précisément, le nœud entre la justice et la soutenabilité, le caractère inextricablement lié des enjeux écologiques avec les enjeux de justice, il faut qu'on commence une conversation robuste sur la justice climatique. C'est la condition majeure qui permettra d'aboutir à la COP26. Or, cette conversation n'a pas encore commencé. Dans l'accord de Paris, on ne sait pas selon quels critères on va pouvoir distribuer, allouer le budget carbone qui reste à émettre d'ici à 2050, dont on sait qu'il est évidemment en quantité finie et en quantité relativement faible. Et donc, il faut qu'on ait une conversation sur la justice climatique. Donc, savoir comment on répartit le budget carbone entre les pays du monde. Et ensuite, une fois que chaque pays aura son budget carbone, comment il est réparti à l'échelle du pays. Donc, qui a le droit, par exemple, en France, d'émettre le budget qui sera alloué à la France compte tenu de ce que la France a déjà émis, de son niveau de développement, etc., etc. Donc, c'est cette justice climatique à double détente qui est, à mon avis, la clé de la réussite dans la lutte contre le changement climatique. Et ça nous renvoie au caractère, une fois de plus, indissociable des enjeux écologiques et des enjeux de justice.
Mais il y a tout de même des raisons d'espérer, notamment l'arrivée du Premier ministre portugais Antonio Costa à la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier, il y a quelques jours donc, puisqu'il a d'ores et déjà annoncé vouloir axer l'Europe sur le social et l'écologie. Puis bien sûr, il y a l'élection de Joe Biden qui entrera officiellement en fonction le 20 janvier prochain. On a le sentiment que cette COP26 pourrait mieux se passer, Éloi Laurent, et que l'accélération de la transition écologique pourrait véritablement avoir lieu en 2021.
Ça peut être le cas. D'abord, il y a plein de raisons d'espérer. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Il ne s'agit absolument pas de regarder le monde avec des yeux totalement déprimés et de penser que, voilà, je crois au contraire que c'est une occasion absolument formidable de pouvoir repenser toutes ces questions-là. Et simplement, malheureusement, il y a une urgence. Et ça, on peut quand même pas le nier. Donc il faut aller relativement vite pour retrouver une forme de lucidité sur ces enjeux-là. Mais effectivement, il y a non seulement ce niveau mondial où la Chine, les États-Unis donnent plutôt des signes encourageants sur cette question climatique. L'Union européenne qui a fait du Green Deal sa stratégie, d'ensemble. Et donc, voilà, le seul problème, c'est qu'il faut se séparer très très vite de l'idée selon laquelle c'est une nouvelle stratégie de croissance, comme le répète la Commission européenne. C'est pas une stratégie de croissance, c'est une stratégie de survie de l'humanité. Donc, c'est pas du tout l'enjeu, n'est pas du tout la croissance économique. Et c'est par ailleurs une stratégie de justice sociale. Et puis, il y a aussi toutes les initiatives locales. C'est-à-dire qu'il y a non seulement l'enjeu global, mais aussi toutes les initiatives locales qui se multiplient et tous ces nouveaux modes de vie qui s'inventent. Et donc, évidemment, tout ça est absolument passionnant et réjouissant. Mais simplement, voilà, on est bien obligé de constater que le gouvernement français a 30 ans de retard sur tout ça et qu'il faut vite rattraper le retard parce que l'histoire n'attend pas.
Et on va continuer à évoquer ces questions toute cette semaine, notamment comment changer l'individu justement pour changer le monde et comment la finance peut se mettre au service de cette transition écologique. Un grand merci Éloi Laurent de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, et si la santé guider le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance, paru aux éditions des Liens qui libèrent. Un grand merci. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
De la houle autour des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, les chantiers vendus à Fincantieri ou quasi nationalisés, qui doit en tenir le gouvernail?
Eh bien, si l'aventure industrielle est de chair et d'os, de larmes, parfois de courage avant tout, dit une tribune d'élus opposée à la vente, elle ne manque souvent pas de sel, car du Sénat au syndicat, en passant par la Commission européenne pour qui depuis mars l'horloge est bloquée, eh bien seul le gouvernement français semble encore vouloir la reprise des chantiers de l'Atlantique par l'italien Fincantieri. La chair de l'aventure, ce sont ces petits chantiers de 3000 employés à Saint-Nazaire, apparemment pas un géant comme Suez ou PSA, mais un acteur influent sur le marché de navires de croisière, troisième constructeur européen et prestataire militaire stratégique capable de produire des porte-avions, dont le remplaçant du Charles de Gaulle annoncé en décembre. Et le sel, c'est qu'aujourd'hui, l'État, actionnaire à plus de 84%, semble pousser pour céder son fleuron national contre l'avis de tous. C'est même la cinquième fois qu'il vient d'accorder un délai à Fincantieri pour formaliser l'offre faite il y a 3 ans.
Fincantieri, un repreneur utile à l'époque, controversé aujourd'hui, Xavier ?
Oui, sous Emmanuel Macron, un montage avait été trouvé avec le constructeur italien pour que l'État français garde la main au conseil d'administration. Mais celui qui était le sauveteur du site après la faillite du coréen STX en 2016 est assez rapidement devenu un écueil. D'abord parce que Fincantieri est le seul acteur européen comparable au chantier de l'Atlantique avec l'allemand Meyer Werft. En 2009 d'ailleurs, la Commission européenne, inquiète d'un duopole dans les navires de croisière, a lancé une enquête sur une éventuelle distorsion de concurrence. Ensuite, écrivent 3 élus locaux et régionaux dans les Échos, parce que ce rachat pourrait conduire à un gravissime transfert de technologie vers la Chine en raison d'un partenariat opaque entre Fincantieri et le géant chinois CSSC, China State Shipbuilding Corporation. Depuis 3 ans, donc, les blocages se multiplient et de planche de salut, Fincantieri se transforme en planche savonnée, voire en cheval de Troie.
Et même les industriels ne croient plus aux champions franco-italiens ?
Alors là, les Italiens seraient refroidis, suggère le rédacteur en chef de Mer et Marine.com, Vincent Groiselot, de moins en moins bienvenus en Pays de la Loire et peut-être même plus tant pressés de racheter que cela, puisqu'avec la crise et l'incertitude, le marché de la croisière ne devrait pas reprendre avant 2021-2022, les supercapacités des chantiers de l'Atlantique, prisées dans la course au gigantisme, sont aujourd'hui moins demandées. Et en France même, plus grand monde ne croit ou ne veut du rachat, explique dans l'Usine Nouvelle, cette fois Olivier Cognas. Pour les syndicats, Fincantieri joue l'usure. 3 élus du personnel viendront d'ailleurs renforcer le conseil d'administration, comme si l'on se barricadait contre un futur rachat. Le gouvernement, lui, dit attendre la fin de l'enquête de la commission, rendue plus lente par la prolongation de la crise économique et le manque de visibilité du secteur, écrit-il. Mais beaucoup se demandent s'il ne prépare pas déjà un plan B secret. Selon le directeur général des chantiers, en tout cas Laurent Castin, la question reste taboue et voilà au moins un secret bien gardé.
En fait, les chantiers de l'Atlantique seraient pris au piège des agendas politiques ?
C'est ce que soupçonnent à peu près tous les commentateurs. Pour Olivier Cognas encore, le mariage est déjà enterré et le reste n'est que cotillons artificiels pour raisons diplomatiques. Chausse-trappe français contre l'Italie, interprète certains sites italiens comme La Verità ou Inside Over. En tout cas, tout le monde veut désormais sortir les mains propres, conclut Vincent Groiselot, c'est-à-dire ne pas froisser son partenaire, ne pas inquiéter ses industriels. La Commission européenne, elle, aurait bon dos, dit-il, en servant d'éventuels boucs émissaires. Mais pour les élus locaux, cet attentisme pourrait directement précipiter Saint-Nazaire dans les bras d'un industriel encore moins scrupuleux. Et c'est cela le piège industriel.
Alors faudra-t-il nationaliser pour de bon les chantiers de Saint-Nazaire, Xavier ?
Eh bien, déjà, abandonner la vente, franchement, réclament les élus locaux. Et puis, c'est vrai, un engagement financier accru de l'État, y compris pour développer les navires à énergie propre, ou à défaut, qu'ils trouvent un nouvel actionnaire privé majoritaire, français si possible, écrivent-ils. Vous voyez, c'est presque un mouton à 5 pattes. Une autre solution serait une alliance limitée avec Fincantieri, comme c'est déjà le cas dans le militaire, avec Naval Group, dont le président plaidait en janvier pour un Airbus du Naval. Mais pour un expert du marché interrogé dans les Échos, l'industrie civile pourrait rester coincée entre ces accords à minima et l'adage selon lequel un chantier ne meurt pas. Alors, Tiffaine, reprise, alliance, nationalisation, le dossier est politique depuis le début en tout cas. L'ironie est que le mariage validé par François Hollande en pleine campagne présidentielle se retrouve maintenant une casserole à traîner pour Emmanuel Macron, qui avait fait jouer en 2017 le droit de préemption de l'État sur les chantiers de Saint-Nazaire. Au 5e report en tout cas, le débat reste ouvert. Mais n'oublions pas, Tiffen, à la cinquième fois sur ces murs ténébreux, aveugles et boiteux vinrent, et leurs huées raillaient le noir clairon sonnant sous les nuées. À la septième fois, les murailles tombèrent.
C'est magnifique. Merci beaucoup, Xavier Martinet. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.
If he brings you happiness, then I wish you both the best. For it's happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if ever the teardrops start, although it hurts to let you go, and I want you to know that I'll stand by you if ever you call. And if I ever should ever hear that he made you shed a tear,
c'était Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique, aujourd'hui, Jacques Azubert. Demain, comment mettre la finance au service de la transition écologique? On en parlera avec Régis Maraudon et Anne-Catherine Husson-Traoré. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. You.